commencer à rentrer dans l'œuvre de Katab Yassin, on va lire une de ses, sa première œuvre théâtrale, une œuvre de jeunesse donc, qu'il a écrite en 1954 et qui est liée à un événement qui a marqué son adolescence, son engagement politique et donc son engagement d'écrivain, puisque Katab Yassin est un écrivain qui a toujours mêlé ses envies poétiques et ses actes militants. C'est un poète militant. Voilà, et donc cette première pièce a été écrite à la suite des émeutes de Sétif, notamment celle du 8 mai 1945, à laquelle le Yassin, lycéen à l'époque, c'est dans laquelle il s'est retrouvé embarqué avec des amis et à la suite de laquelle il a été arrêté. Ça a été vraiment le premier moment de sa prise de conscience politique. Et à la suite de ça, il a écrit donc « Le cadavre encerclé », qui est la pièce que nous allons lire avec des lecteurs que je laisse se présenter. Tout d'abord, celui qui va tenir le rôle du personnage principal, Lakhdar.
Je m'appelle Maxime Roger et je vais lire Lakhdar, du coup.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Leïla Brahimi et je vais lire Nejma.
Bonjour.
Bonjour, Julien Michel et je vais interpréter Tahar.
Bonjour, Marvin Vandeville, je vais interpréter Mustapha.
Moi, Anaïs Sintas, et je vais interpréter avec brio les didascalies.
Bonjour. Et moi, Florent Fichot, je vais interpréter Hassan et le commandant.
Et moi, je ferai Marguerite et d'autres personnages pour le besoin, personnages secondaires.
Avant qu'on commence, je rappelle que nous avons une page Facebook Théâtre de la Gamelle sur laquelle vous pouvez nous laisser des commentaires, nous rejoindre, suivre l'actualité de l'émission.
Et peut-être pour commencer, une petite musique, histoire de se mettre dans l'ambiance. Je précise que c'est une musique du compositeur qui avait composé la musique du spectacle à l'origine, à sa création. La pièce avait été interdite en France à l'époque, mais jouée en Belgique. Et Gilbert Ami, un compositeur contemporain français, avait composé la musique. Donc ce n'est pas la musique du spectacle, parce que je n'ai pas pu la retrouver, mais c'est une composition de Gilbert Ami.
Un marchand accroupi devant sa charrette vide. Impasse débouchant sur la rue en angle droit. Monceau de cadavres débordant sur le pan de mur. Des bras et des têtes s'agitent désespérément. Des blessés viennent mourir dans la rue. À l'angle de l'impasse et de la rue, une lumière est projetée sur les cadavres qui s'expriment tout d'abord par une plaintive rumeur qui se personnifie peu à peu et devient voix. La voix de Lakhdar blessé.
Ici est la rue des Vandales. C'est une rue d'Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca. L'espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés, pour entendre les appels des vierges somnambules, suivre des cercueils d'enfants et recevoir dans la musique des maisons closes le bref murmure des agitateurs. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout, avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. et je retourne à la sanglante source, à notre mère incorruptible, la matière jamais en défaut, tantôt génératrice de sang et d'énergie, tantôt pétrifiée dans la combustion solaire qui m'emporte à la cité lucide, au sein frais de la nuit. Homme tué pour une cause apparemment inexplicable, tant que ma mort n'a pas donné de fruits, comme un grain de blé dur tombé sous la faux, pour onduler plus haut à l'assaut de la prochaine ère à battre. Joignant le corps écrasé à la conscience de la force qui l'écrase, en un triomphe général, où la victime apprend au bourreau le maniement des armes, et le bourreau ne sait pas que c'est lui qui subit, et la victime ne sait pas que la matière gît, inexpugnable dans le sang qui sèche et le soleil qui boit. Ici est la rue des vandales, des fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère encrue où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. C'est un canon qu'il faut désormais pour m'abattre. Si le canon m'abat, je serai encore là, lueur d'astre glorifiant les ruines, et nulle fusée n'atteindra plus mon foyer, à moins qu'un enfant précoce ne quitte la pesanteur terrestre pour s'évaporer avec moi dans un parfum d'étoiles, en un cortège intime où la mort n'est qu'un jeu. Ici est la rue de Nejma, mon étoile, la seule artère où je veux rendre l'âme. C'est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent leur blancheur comme du sang, avec une violence d'atomes au bord de l'explosion. Ici sont étendus dans l'ombre les cadavres que la police ne veut pas voir. Mais l'ombre s'est mise en marche sous l'unique lueur du jour, et le tas de cadavres demeure en vie, parcouru par une ultime vague de sang, comme un dragon foudroyé rassemblant ses forces à l'heure de l'agonie, ne sachant plus si le feu s'attarde sur sa dépouille entière ou sur une seule des écailles à vif dont s'illumine son antre. Ainsi survit la foule à son propre chevet, dans l'extermination qui l'arme et la délivre. Ici même abattu dans l'impasse natale, un goût ancien me revient à la bouche. Mais ce n'est plus la femme qui m'enfanta, ni l'amante dont je conserve la morsure. Ce sont toutes les mères et toutes les épouses dont je sens l'étreinte hissant mon corps loin de moi. Et seule persiste ma voix d'homme pour déclamer la plénitude d'un masculin pluriel. Je dis « nous » et je descends dans la terre pour ranimer le corps qui m'appartient à jamais. Mais dans l'attente de la résurrection, pour que, Lakdar assassiné, je remonte d'outre-tombe prononcer mon oraison funèbre. Il me faut, au flux masculin, ajouter le reflux pluriel, afin que la lunaire attraction me fasse survoler ma tombe avec assez d'envergure. Ici, je me dénombre et n'attends plus la fin. Nous sommes morts. Phrase incroyable. Nous sommes morts assassinés. La police viendra bientôt nous ramasser. Pour l'instant, elle nous dissimule, n'osant plus franchir l'ombre où nulle force ne peut plus nous disperser. Nous sommes morts, exterminés à l'insu de la ville. Une vieille femme suivie de ses marmots nous a vus la première. Elle a peut-être ameuté les quelques hommes valides qui se sont répandus à travers nous, armés de pioches et de bâtons pour nous enterrer par la force. Ils se sont approchés, à pas de loup, levant leurs armes au-dessus de leur tête, et les habitants les observaient du fond de leur demeure éteinte, partagée entre l'angoisse et la terreur à la vue des fantômes penchés sur le charnier. Un grand massacre avait été perpétré. Durant toute la nuit jusqu'à la lueur matinale qui m'éveille à présent, les habitants restèrent claquemurés, comme s'ils prévoyaient leur propre massacre, et s'y préparaient dans le recueillement. Puis les fantômes eux-mêmes cessèrent leurs allées et venues, et les derniers chats firent le vide. Des passants de plus en plus rares s'inquiétaient de nos râles et s'arrêtaient un instant sur les lieux de la mêlée. Aucune patrouille ne vint troubler leur furtive méditation. Ils connurent un nouveau sentiment pour les obscurs militants dont le flot mugissait encore à leurs pieds, dans cette rue qu'ils avaient toujours vue pourrie et sombre, où la gloire d'un si vaste carnage venait soudain prolonger l'impasse vers des chevauchées à venir.
Nejma, voilée, quittant sa chambre, va vers l'impasse. Elle déchire son voile, sa joue, sa robe, et se lamente.
Voyez la poitrine aveugle. Loin de l'amant sevré, jamais ne sera mûr le sein noirci par l'absence, plus une bouche ne saura m'écumer. L'Akbar s'endort avec d'autres que moi. Vous m'aviez prévu, j'avais rêvé la fusillade, mais il devait revenir au crépuscule. Je devais lui cacher mes pleurs et mes couteaux. Et me voici vouée à la nuit solitaire, veuve jamais déflorée, fleur aveugle cherchant l'élu emporté, en l'holocauste de fourmilière qui hante sa corolle. Ainsi m'a quitté l'Agdar, le mâle fourmi, qui traversa le parfum altier de ma couche pour tomber en ce tas de corps inconnus.
Depuis que l'Agdar est parti, nous sommes là, sans nouvelles. Nejma n'a pas bougé de la journée. À présent, elle s'en va silencieuse à la faveur de la nuit. Oui, c'est sa silhouette qui s'éloigne le long des murs. Je ne l'ai pas entendu sortir.
Nejma, il ne faut pas la laisser partir. Appelle-la. N'oublie pas que l'Agdar l'a laissée ici, même s'il n'a pas prévu qu'elle resterait sous notre garde. Regarde-la enjamber les morts. La stupeur ni la crainte n'ont appesanti sa démarche. La voici qui s'arrête devant l'impasse macabre. Son voile flotte dans la nuit. On croirait, chavirant, une barque immobilisée pour nous révéler l'horizon. Rejoins-la vite. En un clin d'œil, elle peut s'évanouir. La feinte la plus subtile de la gazelle en fuite n'est souvent qu'une halte à portée de fusil.
Hassan est sorti furtivement à la rencontre de la silhouette. Après un moment d'obscurité sur la scène, entre Nejma, Agard, le voile déchiré suivi de loin par Hassan. Elle s'assied sur un banc. Tahar, avec un rire forcé.
Ton café est encore chaud. Mais dis, où allais-tu ? Chez tes parents ?
Laisse-la boire. Elle n'a pas de famille.
Ah, Nejma.
Il faut simplement t'attendre. Tu connais l'Agdar mieux que nous.
On ne quitte pas sa famille pour un fou comme l'Agdar.
Sache-le bien, charogne. N'est-elle ami absent, nous ne t'aurions jamais ouvert notre porte. Ce n'est pas pour tes cheveux blancs.
L'Agdar, l'Agdar. Je n'entends que ce nom. N'est-il pas mon fils avant tout ?
Le fils de sa mère, je le précise pour toi. Pourquoi évoquer ici ta stérilité ? Tu n'es qu'un vieux bourdon radoteur.
Un silence, puis Nejma, portant la tasse à ses lèvres, monologue à voix basse, comme fermé à ses propres paroles.
Pour toute réponse à mes appels, j'entendais des pas de soldats, et j'ai beau errer encore aujourd'hui, dans les lieux interdits où l'on se traîne sans pouvoir mordre, bête clouée au sol, par une botte inattaquable, dont la présence nous omnubile, comme une promesse de lutte, indispensable à la vengeance que nous méditons sans un mot, sans une arme. Mais nous avons au moins la certitude d'être battus avec l'orgueil d'être invincibles. Puisque le seul ami a péri, plus que jamais je vais l'attendre. Je vais piétiner la poussière et le sang, ainsi qu'une génisse galopant vers une boucherie en quête d'une ressemblance perdue. Tant de visages à mes pieds, tant de spectres dispersés à ma poursuite, et nulle trace de l'Agdar.
Souvent l'Agdar garde le silence quand on l'appelle.
Et moi, j'aurais perdu le meilleur de ma force à courir comme un misérable, à la recherche du maudit, ce fils adoptif que vous me reprochez d'aimer, moi, qui suis le seul père qu'il ait jamais connu jusqu'au moment où vous lui avez tourné la tête avec toutes vos idées nouvelles prises je ne sais où. Accaparé par des camarades dont il ignore parfois le nom, le voilà perdu à présent, non seulement pour son parâtre, mais pour sa mère, qu'il a quittée toute jeune au sortir de l'école, le jour où vous avez décidé de narguer la police en exhibant vos incompréhensibles banderoles. Et depuis, vous ne faites plus que cela. La police ne suffit plus. On vous envoie maintenant des soldats. Résultat, ces cadavres de jeunes gens dans la rue. Ceux-là aussi sont des camarades. Sont de ces camarades pour lesquels vous avez tout rejeté. Livres d'école, outils, maison et famille pour vous attrouper encore et toujours en attendant que des policiers et des soldats vous envoient rejoindre les cadavres sans nom que vous ne pouvez même pas enterrer. Alors que vos amis, et l'Akhdar peut-être, gisent ici, sous votre nez, dans la rue même où ils venaient assister à vos réunions.
Nous sommes nés dans cette rue. Tous. Ce n'est pas la police qui nous en délogera. Quant aux cadavres, la vieille rue en a vu d'autres. Vous-même, pauvre vieillard, elle verra passer votre corbillard. Et tous nous passerons par là. Ce n'est pas le nombre des morts qui pèse sur notre rue, c'est la mort solitaire des lâches, des inquiets de votre genre, vous les pères attardés qui trahissez les ancêtres. Vous croyez assurer vos vieux jours en nous envoyant dans des chantiers et des écoles d'où nous sommes perpétuellement chassés par ceux dont la domination vous est devenue chère. Vous admirez la puissance, le luxe, les armes des mercenaires qui triomphèrent de nos communs ancêtres. La lutte n'a plus de sens à vos yeux. Qu'est-ce que cela veut dire sinon que vos âmes de domestiques vous ont poussé dans l'ignominie de l'écrasement voluptueusement consenti, à nourrir des rêves d'esclavage aux dépens de vos enfants, à l'exemple de vos dominateurs? Eux aussi croient vous aimer naïvement, la crapule est toujours naïve, puisqu'ils vivent de votre zèle, vous associent à leur turpitude, avec le sentiment d'être, eux aussi, des pères initiateurs. Mais vous serez les derniers dupés. Vos enfants, malgré vous, ont grandi dans la rue. Ils n'ont pas eu le temps d'être domestiqués et ils vous voient vite crever avec vos rêves de béatitude. Nous ne travaillerons plus pour les vieux jours des larbins.
Dans ce pays de malheur, tous les 10 ans le sang coule. J'ai vu trop de blancs becs enflammés comme vous courir toujours à la même défaite. Qu'avez-vous fait avec vos drapeaux contre les mitrailleuses? Toutes les révoltes s'apaisent aussi vite que des sanglots d'enfants. Nos maisons sont démolies au canon. La milice et l'armée viennent renforcer la police. On vous frappe, on vous humilie. On vous fait travailler de force. On tire sur vos cortèges maudits. Et tout cela rejaillit sur des innocents. Peuvent-ils compter sur vous, les 9 enfants du greffier brûlés vifs, après avoir été arrosés d'essence parce qu'ils avaient eu la lubie de conserver vos journaux?
On dirait que tu te réjouis de nous faire ce reproche.
Laisse croasser le corbeau. Ce n'est pas lui qui m'inquiète. Dis-moi, Hassan, te souviens-tu de ce jeune homme que le tribunal militaire condamna pour regard outrageant à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions?
Oui, je me souviens. Il était dans notre cellule après l'évasion, il nous a dit « Pourquoi rester dans ce pays si la vengeance est impossible ?»
Alors, vous avez pour la plupart quitté le pays et vous êtes parti pour la France. Vous avez mangé à la table de vos ennemis, vous avez parlé leur langue et porté l'uniforme sous lequel on vous avait pourtant canardé. Moi, je buvais, je festoyais avec les femmes, mais je restais au pays. Aussi n'ai-je été ni soldat, ni manœuvre dans les fameuses usines de là-bas. Je pourrais à mon tour vous accuser d'infidélité, sinon de trahison. Voilà 2 ans que l'Akhdar est revenu de Paris. Il n'est pas venu nous rendre visite une seule fois. Sa mère est chaque jour à la fenêtre, dans l'espoir de le voir passer. J'en perds le boire et le manger.
Le boire surtout. À présent, l'odeur du vin te plonge dans un incroyable dégoût.
C'est depuis que je fais la prière. Une idée que je tiens d'une honnête commerçante. Vous ne pouvez imaginer ce que c'est que d'accéder au minaret avec des habits bien blancs et un corps pur.
Entre un messager du parti.
Salut.
Quelles sont les nouvelles?
Le calme est recommandé. Ils veulent mesurer notre force en faisant éclater de nouvelles rixes.
On dira que de paisibles Européens ont été attaqués.
Nos principaux lieux de rencontre sont couverts et gardés à vue. Il ne reste plus qu'à s'enfermer et attendre, mais ne pas se laisser cueillir. Si tous les responsables disparaissent, comme l'Akhdar et beaucoup d'autres, le parti sera décapité.
Hassan désignant Nejma prostré.
Nous n'avons pas encore décidé de porter l'Akhdar disparu.
C'est à vous de le retrouver.
Comment rechercher l'Akhdar si l'ordre est de rester enfermé? Nous ne savons pas s'il est parmi les victimes. Vous ne pensez pas que la police a laissé le corps en place à seule fin de nous prendre au piège?
Peut-être.
Il sort. Nejma se levant brusquement.
Je reviendrai vous voir.
Elle est folle.
Silence.
Chacun son destin. Pourquoi sortirait-elle? Chacun son destin.
Laisse-la faire. Tu devrais l'accompagner.
Nejma sort,
suivi à regret par Tahar. En sortant, Nejma aperçoit Lagdar parmi les cadavres. Il s'est péniblement relevé. Ses vêtements, son visage sont ensanglantés. Il titube dans la rue comme obsédé. Nejma reste muette, fixant l'apparition sans pouvoir avancer d'un pas.
Je me retrouve dans notre ville. Elle reprend forme. Je remue encore mes membres brisés et la rue des Vandales prend fin à mes yeux, comme sous un orage. Avant une minute précise où la nuit s'écroule au cœur des pierres, dans la poitrine des insectes que le vent et le gel fouillent jusqu'au matin. C'est alors qu'un mur immense est élevé entre la ville immense et moi. Je sors enfin de cette mort tenace et de la ville morte où me voici enseveli.
Bavarde avec un autre officier, montrant la carte de l'Afrique projetée sur l'écran. Le commandant.
Voyez l'histoire de la Numidie. Vous aurez l'histoire de. Vous aurez l'Afrique du Nord d'aujourd'hui. Voyez l'histoire de la Numidie. Vous aurez l'Afrique du Nord d'aujourd'hui. À cette nuance près que nous avons remplacé les Romains au poste de commande. Autrefois, il n'avait pas été facile de battre les cavaliers de Numidie. Aujourd'hui, nous avons l'aviation et le pays se trouve divisé en trois. Mais c'est toujours le même pays. Nous ne réussirons pas à submerger ses habitants, même après avoir déplacé un nombre de colons jamais atteint dans aucun autre empire africain. En Tunisie, au Maroc, aussi bien qu'ici, les mêmes hommes se retournent contre nous. Ils reviennent à la charge, surgit des siècles révolus, et ils mordent la poussière pour apparaître à nouveau, numides, en déroute, pour d'autres charges réunies.
La lumière se déplace vers Lagdar, couvert de poussière et d'ecchymose, face à Marguerite.
Vous avez été attaqué ?
C'est difficile à dire.
J'ai freiné juste devant votre corps. J'étais seule au volant. Vous avez de la chance. J'ai freiné juste à temps. Vous avez remué. J'ai entendu des mots français.
Vous avez dû confondre. Il y avait d'autres blessés.
Non, je suis sûre. Vos paroles étaient incompréhensibles, mais c'était du français.
Ce que c'est que d'être allé à l'école...
Vous dites ?
Rien.
J'ai eu de la peine à vous transporter. Heureusement, je suis infirmière. J'aime soigner les gens. Mais ce n'est pas mon métier. Mon père ne veut plus que je travaille. Il dit que mon traitement suffit. À Paris, je donnais encore quelques soins. Ici, c'est trop ignoble. Enfin, j'ai arrêté l'hémorragie.
Je me sens mieux.
Si vous voulez, je vais avertir mon père. Il fera venir une ambulance.
Vous croyez que votre père...
Il est officier.
Lagdar sursaute. Marguerite le fixe attentivement avant de reprendre à voix basse.
Vous êtes étranger. Non, vous êtes arabe. Je le vois maintenant, en vous regardant de plus près. Vous avez le sang.
Oui, j'ai le sang.
C'est bizarre. Les autres, je ne peux pas les voir. Ils sont sales. On dirait des poux. Vous n'êtes pas comme eux. Étendez-vous sur mon lit.
Je dormirai chez mes amis.
Je vous laisse. Et étendez-vous sur mon lit.
Marguerite sort. Entre Nejma.
Pardonne-moi. Tes amis te cherchent. On t'a vu descendre ici.
Vous aussi, vous me surveillez. Suis-je un esclave ou un enfant ?
Trop loin, je t'ai suivi. Ce n'est pas moi qui te garderai. Toujours tu gis abîmé dans ton propre regard, si on peut appeler regard cette araignée qui court sur ton front. Je te poursuis pendant que tu m'aveugles et que tu me frappes. Sur moi pèse ton âme cruelle et je porte le deuil, mais tu n'es pas mort que pour moi.
Jamais on ne le perd. L'amant qu'un souffle nouveau vient inhumer hors de saison. Labouré loin de mes sillons, j'offre à ton joug la solitude. Et mon absence va fleurir ton abandon.
Dans mes propres flancs, tu m'as semé sans retour, et voilà que tu te dissipes. Nuage crevé dont l'eau m'était promise.
Ainsi qu'un sac à la renverse, je fume avec toi confondu, et je t'inonde bouche cousue, plein de tes odorants nuages. Ainsi qu'un sac à la renverse, je fume avec toi confondu, terre écrasée, compagne imprévisible, de ton blé dur par surprise couché.
Moi qui te vis ravir sous la faux.
Mais je sortirai du silo, et tu ne sauras plus quel ancien assaut te recouvre. Oublié, ton hibernale nudité. Je traîne l'âme à la mort qui s'oublie. Qu'elle ôte ses habits de noces, la sorcière destinée. Que vierge elle s'épuise autour du feu. Qu'elle simule en vain sa déchéance de cascade. Au fond des grottes nuptiales, l'amour, la mort et l'âme... Remords enfouis par les ancêtres, eux qui dénoncent leur vie, comme un fléau rallumé en temps de pénurie, au campement d'amants obscurs qui ne sauraient se reconnaître sans brûler leurs dernières larmes dans une lutte où l'âme adverse se sent seule.
Entre Hassan et Mustapha. Mustapha montrant Lagdar.
Le voici, vivant et même bavard.
Attends.
Entre Marguerite, effrayée devant les deux militants.
Ne craignez rien, nous partons.
Eh bien, non. Restons ensemble.
Montrant Marguerite.
Elle est de Paris. Chez elle, c'est comme si on avait franchi la mer.
Je vais fermer la porte.
Ne vous donnez pas tant de mal.
Le mal est fait.
5 projecteurs fusent sur la scène. Le premier projecteur met en évidence le visage tuméfié de Lagdar que Marguerite fixe, fascinée à la lueur du second projecteur, révélant cet amour nouveau, éclos à l'insu du blessé. Le troisième projecteur désigne l'impuissante provocation de Nejma, dont l'œil amer semble dissoudre la douceur rivale. Le quatrième projecteur oscille avec le double regard que Mustapha distribue entre Nejma et Lagdar. Lagdar qu'il commence à haïr et Nejma qui achève de le désespérer. Le cinquième projecteur s'éteint, le premier sur Hassan, légèrement en retrait, solitaire, et solidaire à la fois. Puis Mustapha, puis Marguerite, puis Nejma rentrent successivement dans l'ombre. Le dernier projecteur s'éteint aux lèvres de Lagdar au moment où il donne de la voix.
Avez-vous des boissons ? Donnez n'importe quoi. Vous boirez avec nous. Ce sera sans rancune.
Marguerite apporte une boisson. Ils boivent à la santé de Lagdar.
Tes blessures ?
Toutes neuves.
Il a beaucoup saigné.
Vous allez le remplir comme une outre ?
Il devient insensible, pareil à ces arbres que le bec des cigognes déchire jusqu'à l'os.
L'Agdar se penchant soudain vers Mustapha.
La même cigogne,
montrant Nejma,
te fait claquer du bec. Mais je suis tranquille, nous sommes frères, les corbeaux ne se profanent pas entre eux. À présent, dis-moi, où sont nos hommes ?
Mustapha, mortifié, ne répond pas. Un silence. C'est Hassan qui répond.
Il ne reste plus que nous au district. Il faudrait regrouper les hommes. Notre local est parmi les rares qui n'ont pas été saccagés. Les journaux disent que l'état de siège ne va pas durer, mais les hommes suspects de 18 à 60 ans sont menés loin de la ville par convoi militaire.
L'Agdar à Marguerite.
Qu'en pense votre père ?
Il exécute.
Oui, ce sont les colons qui décident. Ils ont obtenu à Paris que les pouvoirs soient en quelque sorte partagés entre la milice et l'armée. Le gouverneur lui-même est paralysé. Nous pouvons nous attendre à tout.
Peut-on chiffrer nos pertes ?
Je ne vois que trois catégories. Les victimes, les captifs, les rescapés. Ce n'est jamais fini. De l'autre côté du fossé, la nuit totale s'accumule. Ils fignolent quelques catastrophes, bien que l'alerte soit passée.
De leurs propres mains, ils anéantiront leur victoire, par crainte du châtiment.
N'espérez pas que Paris désavoue l'armée.
Nous connaissons le pouvoir des colons. Un beau jour, ils iront vous terroriser en France. Déjà, ils vous harcèlent, vous dupent, vous débordent. Ils sont vos mercenaires jamais assez puissants. Ils se retourneront contre vous, au comble de la servile arrogance.
Moins fort. De son bureau, il entend tout.
Qui ?
Mon père.
Mustapha et l'Agdar se regardent. Au cri de Marguerite, la porte vole en morceaux sous la botte du commandant, aussitôt abattu par Hassan à bout portant. L'espace d'un éclair, Marguerite vacille, puis se place résolument au centre de l'action. Elle enjobe le corps de son père pour se saisir de l'Agdar, qui se débat, abasourdi. Noir. Lumière. Coup de gong. Atmosphère de bar plein de monde. Nejma parle au centre de la scène.
Il est temps de dire ce qui arriva lorsque Lagdar sortait de l'enfance. Il lui a semblé alors être destiné à vivre dans un pays étranger, que je ne nommerai pas. Ce fut plusieurs années après avoir mûri l'idée de son départ que toutes ces choses lui arrivèrent. Son père vivait dans un café jour et nuit. Lagdar se souvenait de l'y avoir accompagné lorsque des temps de sécheresse laissèrent les hommes sans travail. Les ouvriers, les paysans, les petits fonctionnaires et même l'avocat ne quittaient pas le café. Il buvait peu ou beaucoup. Il jouait aux cartes, aux dominos. Ainsi passaient les mauvais jours. L'avocat lisait des journaux en se frottant les yeux. Les autres renversaient la tête pour réfléchir. Le père de Lagdar voulait passer inaperçu. « Les journaux sont comme les formules des sorciers, disait-il. Tout le monde ne peut les déchiffrer. » Un matin, la police fit plusieurs rafales dans la rue. Chacun courut se réfugier dans les cafés, les boutiques, les bains et jusqu'à la gare. Et Lagdar entra au café.
Nejma quitte la scène. Les ouvriers, les paysans, les petits fonctionnaires et l'avocat sont au centre de la scène. Tahar est parmi eux. Au fond se tient Mustapha. Lagdar se glisse vers lui. Lagdar, qui vient d'apercevoir son paraître, grogne.
Il y a du monde aujourd'hui.
Avec toi, ça fait un de plus.
Je ne te cherche pas, mon père. Je ne cherche qu'à être tranquille.
Assieds-toi, camarade. Respecte un peu ton père.
À ce moment, l'avocat, en arrêt devant son journal, pousse un petit cri.
Ça y est, le chef du parti est condamné. 20 ans de travaux forcés.
Voilà le maître qui pleure.
Ce n'est pas vous qui prendrez la peine de nous informer.
Excusez-moi, maître, mais vous avez une mauvaise manière d'appréhender les choses.
Condamné selon la loi ? Pardon, maître, comment a-t-on condamné le chef ?
La loi et les colons, il est bien condamné.
Et le voilà sans défense ?
Ce n'est pas la première fois. Il mourra en prison.
Plus d'espoir alors ?
Il me semble, maître, à vous entendre que nous serons tous tôt ou tard condamnés.
Ah, mon fils, vous m'avez compris. Sans cesse, la loi nous menace et nous le fait bien sentir par des sentences pareilles. Cependant, la loi ne frappe point les masses. Tant que nous serons ensemble, elle nous laissera vivre soumis. Si par malheur un mécontent...
Bravo, maître. Instruisez-nous.
Vous voulez dire que le chef du parti a été le seul à
se rebeller. Vous voulez dire que le chef du parti a été le seul à se rebeller et que toujours il récidive sans pouvoir nous convaincre. Vous voulez dire que nous ne l'avons pas suivi jusqu'au bout.
Oui, mon fils. Toi aussi, tu comprends. Je prétends qu'il est insensé de sortir d'un peuple affamé, ignorant comme le nôtre, pour tomber de soi-même sous le coup de la loi. Vous voyez bien que ce malheureux, en définitive, se trouve abandonné. Sa condamnation ne sert qu'à nous intimider un peu plus, et nous ne faisons que subir les rafles sans y être pour rien.
Bravo, maître. Vous avez dû connaître beaucoup de juges. Vous en parlez sagement.
Il y a 20 ans que je suis inscrit au barreau.
Je pense à cet homme qu'on vient de condamner. Lui aussi est inscrit au barreau pour 20 ans, mais de l'autre côté du prétoire. Comprenez-vous, maître ? Comprenez-vous ?
Oui, j'ai connu beaucoup de juges.
Vous les avez connus d'homme à homme ?
Certes, depuis 20 ans que je suis inscrit.
Donc, leur loi n'est pas inaccessible. Il suffit de s'inscrire au barreau. Vous me donnez envie de le faire.
Il est bien tard, jeune homme, pour finir vos études.
Approchez, approchez tous. Tout le monde peut ici s'inscrire au barreau. Mais ce sera de l'autre côté du prétoire, car la loi va changer de camp. Maître, votre condamnation sera légère.
Pour une fois qu'il paye à boire.
Dieu vous aide, mes enfants. Je vais voir si le journal est arrivé.
L'avocat sort, salué par la joie générale.
Le maître n'aime pas notre enthousiasme.
C'est un homme libre, mais il a des soucis.
Moi, je préfère ma tête d'esclave.
C'est le moment de nous y mettre.
Mustapha tirant un carnet de sa poche.
La séance est ouverte.
Ouvriers et paysans se rapprochent en silence. Tahar reste seul au comptoir.
Nous commencerons quand tu seras parti.
Avec eux, tu feras fortune.
Tahar sort, suivi par les quelques petits fonctionnaires. La réunion commence dans un léger brouhaha. Puis on entend une partie de l'exposé qui se détache, à voix basse, attirant l'attention.
Leurs cellules ne sont pas les nôtres. Elles ne suffiront jamais à isoler nos prisonniers. Il faut organiser les salles communes, malgré la présence des condamnés de droit commun. Ne pas être arrêté par surprise, mais pénétrer dans les pénitenciers, avec un plan de libération totale, comprenant même les bandits de droit commun, car nous n'avons pas à juger ceux qui sont à l'autre bout de nos chaînes.
Une à une, s'éteignent les lumières, tandis que les militants se lèvent et s'en vont, chacun de son côté. L'obscurité se fait sur les ombres de Lagdar et Mustapha, projetées sur l'écran. En gros plan, barreau de la prison militaire. À l'intérieur, Lagdar, Mustapha et Hassan sont réunis dans la même cellule. Les spectateurs reconnaissent tour à tour les visages des trois prisonniers.
Devant les barreaux figurés en gros plan, des deux côtés de la rue qui débouchent sur la lucarne de la cellule, se tient le cœur de la foule. En deux rangées débordant l'une sur l'autre. Les personnages du cœur ne sont pas symboliques, sauf Marguerite, la parisienne, qui tranche par son élégance ses allées et venues mélancoliques au milieu de la rue, car elle attend, seule, des nouvelles de Lagdar. Alors que la foule vaque à ses occupations, se promène ou somnole, tout cela dans une sorte de recueillement nécessaire à l'audition du trio emprisonné.
C'est la fin de notre première lecture du cycle Katabiassine et donc du cadavre encerclé aujourd'hui. Donc c'était des extraits hein, de la pièce. Peut-être que dans nos futures émissions sur Katabiassine, on aura le temps de vous lire la fin. Dites-le nous, n'hésitez pas sur Facebook si vous avez envie d'entendre la fin de l'histoire ou une autre, parce qu'il y en a plein. C'est un auteur, poète, dramaturge qui a eu beaucoup de différentes périodes d'écriture. Donc dites-nous ce que vous avez envie d'entendre sur Yassine et nous vous le lirons. Voilà, d'autre part, on s'excuse, on a eu quelques problèmes techniques liés au micro, et etc. Donc on s'excuse de ces petits bafouillages. Et je cède maintenant la parole à Marion Grenier pour sa chronique sur le spectacle d'Uras Platini.
Merci Clara, merci à vous tous pour
Marion.
Cette lecture.
Bonjour Marion,
bonjour.
Tu n'as jamais eu peur dans un stade ?
Non, j'étais au milieu du stade, protégé par des grillages.
Et les 80 000 personnes.
C'est le football.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là, démoniaque et divin?
Le football est aimé. Pourquoi il est aimé? Je vais vous dire pourquoi il est aimé. Parce qu'il n'a aucune vérité. Il n'a pas de vérité. Le plus fort ne gagnera jamais contre le plus faible au football.
Emploie-moi un autre mot que celui de vérité. Aucune loi ?
Aucune loi. Dans un sport collectif, il faut être plus fort, malgré soi. C'est pas forcément celui qui gagne qui est le plus fort. L'équipe de France est arrivée à un certain niveau parmi les plus forts. Mais après, alors on refait le monde. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un gardien glissé, on a perdu 1-0. Alors on va expliquer, on va foutre la merde dans l'équipe, on va tout faire parce que le gardien, il a glissé. C'est pas de sa faute, il n'avait peut-être pas les bons crampons. Pour ça, le football est fait d'erreur parce qu'un match parfait, c'est 0-0. Si personne...
Voilà, il y a deux semaines, on recevait ici dans les studios de Radio Canu la compagnie des 3-8, Guy Néjon, Anne de Boissy et Stéphane Néjon. Ils nous ont présenté, juste avant la toute première représentation, le spectacle Duras Platini en guise de lancement de notre cycle sport-théâtre. On vient d'en entendre un petit extrait. Lourde responsabilité que cette chronique, comme pour mettre un point ou un point-virgule à cette aventure. Car oui, Duras Platini est à voir depuis le 17 octobre au Nouveau Théâtre du 8e et ne sera plus à voir à compter de ce dimanche. Deux jours donc pour courir savourer ses mots. Petit rappel, Duras Platini, c'est au théâtre la rencontre de deux intelligences, deux virtuoses, deux mythes. Un écrivain, une écrivaine, Marguerite Duras, fascinée par Michel Platini, footballeur. Cette rencontre a eu lieu réellement en décembre 1987 lors d'un entretien organisé par le journal Libération. Marguerite Duras, 73 ans, vient alors d'écrire L'Amant. J'ai eu très envie de vous en lire un extrait et de le comparer à un article de L'Équipe, mais on ne peut pas tout dire ni tout faire. Le footballeur, 32 ans, prend sa retraite et vient d'écrire quant à lui « Ma vie comme un match ». Elle l'interroge et s'interroge sur le football, sur l'absurdité de ce sport et essaie de comprendre avec profondeur et sensibilité ce qui meut cet homme. Bon, et puis pour continuer sur notre lancée de chroniques vivantes, et parce que j'ai eu l'impression que tout ou beaucoup avait été dit sur ce spectacle, sur les ondes de Radio Canu ici il y a deux semaines et dans la presse, très belle presse d'ailleurs, j'ai à nouveau souhaité donner la parole et la plume aux spectateurs. Voici donc les impressions, ressentis, notes d'humeur de spectateurs passionnés. On les appellera Z, G, S et B. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. La parole à S.
J'ai trouvé que Anne de Boissy dans Duras était super. Qu'elle incarnait une Duras juste et voilà, j'ai beaucoup rigolé dans sa manière d'aborder les choses.
J'ai voyait bien Duras à travers la comédienne malgré son jeune âge. Un peu moins crédible à son avis pour le garçon, un peu trop vieux peut-être pour incarner un sportif de très haut niveau de 30 ans. Z a trouvé les deux acteurs très bons et très justes. Anne de Boissy, très inspirée en Duras. Quant à Stéphane Néjon, on l'aurait pris pour un vrai fouteux, dans sa fougue plus que dans ses dribbles. La complicité qui s'immisce entre les deux se fait vite sentir. Parole volée maintenant sur les partis pris de Guy Néjon, metteur en scène. Z, encore, a aimé la scène qui donnait à percevoir un terrain de foot où les deux acteurs se renvoient la balle au sens propre comme au sens figuré. Un ensemble harmonieux et cosy, un huis clos où l'on serait bien resté à papoter encore un peu avec ces deux phénomènes, sobre et aéré.
Là, j'ai trouvé qu'il avait bien bossé avec Johan Tivoli qui a fait la lumière parce que c'est très plastique en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient vraiment très plastiques. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de déplacements ou d'utilisation du ballon. Stéphane Néjon qui joue Platini, il est beaucoup avec le ballon et j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était pas forcément nécessaire d'illustrer. Mais voilà, l'univers est plutôt simple mais réussi quoi.
Et ce que vous n'oublierez pas, votre passage préféré ?
J'ai beaucoup aimé l'aparté de la soupe aux poireaux, ça m'a beaucoup fait rire.
Tu peux nous raconter ?
En fait, il y a plusieurs moments où l'interview est, euh, est coupé par des apartés, soit de Duras, soit de Platini. Un peu plus de Duras, si je me souviens bien. Et à un moment, en gros, elle fait un aparté sur la soupe aux poireaux et elle donne la recette de la soupe aux poireaux en étant hyper carré, en disant qu'elle est toujours mal faite par les Françaises et qu'il faut faire des efforts sur la soupe aux poireaux. Voilà, et du coup, c'est très drôle parce que c'est complètement décalé par rapport à son attitude quand on connaît un peu Duras. Et puis dans le spectacle aussi, c'est vraiment c'est le moment un peu où elle se révèle un peu autrement que dans l'interview, quoi. Donc c'est plutôt drôle.
Enfin, je me suis interrogée sur la confrontation de ces deux mondes, sport et théâtre, sport et littérature. Est-ce que la rencontre s'est faite? Est-ce que les ponts se sont construits? Z m'a éclairée. Paris surprenant mais réussi, rencontre réussie car aussi prise en charge par l'interview de Duras en elle-même et à une époque donnée. Il y avait du corps et un minimum de réflexion. Amusez-vous à interviewer Franck Ribéry aujourd'hui. Mais ça prend, on se surprendrait presque à vouloir aller voir un match après ça. Et toujours, latent, il y a le drame du Heysel qui donne une note tragique. J'ai m'écrit. Ce que dit Duras du football, je ne sais pas si elle pourrait encore le dire aujourd'hui. Universalité, conditions humaines. La perception de Platini sur le foot est aussi assez surprenante, avec le 0-0 pour un match parfait. C'est l'erreur qui fait le match et non la perfection.
Eh ben, moi, j'ai bien aimé justement le décalage entre le fait que l'interview était surtout autour du foot et que Duras, elle attendait quand même que Platini lui dise que c'était une grande auteure et que la littérature était importante dans la culture et dans la société et dans le monde. Donc j'ai bien aimé ce décalage là parce que du coup lui il a quand même du recul sur le monde du foot mais il a peu de recul sur le reste ce qui peut être considéré comme culturel ou divertissant et voilà ce décalage là je l'ai bien aimé ouais.
Trois mots enfin, pudeur, enthousiasme et simplicité et des lignes données in extremis signées B, des perches tendues rarement saisies ou très brièvement le temps d'un pas de danse, beaucoup de tendresse, d'écoute, de désaccord. Duras fait fuser les questions, mais aussi les remarques. Platini dribble avec les réponses, la joute verbale est saisissante. Voilà, Duras-Platini, c'est donc encore jusqu'à dimanche, à 17h demain et dimanche au Nouveau Théâtre du 8e. Un théâtre que l'on soutient ici, avec une politique tarifaire très juste et libre, à chacun de choisir le prix de sa place. Les réservations sont possibles sur Internet, sur le site du Nouveau Théâtre du 8e ou par téléphone. Je vous redonne le numéro 04 78 78 33 30. On pourrait encore en parler des heures, alors réécoutez l'émission du 12 octobre en podcast sur Facebook et sur le blog du Théâtre de la Gamelle et courez-y. Un grand merci aux 3-8 et à tous les spectateurs Z, B, G, S qui m'ont fait part de leurs ressentis. Un petit mot enfin sur le spectacle dans lequel joue Leïla en ce moment, qui s'appelle Dire. On en a parlé la semaine dernière ici même. Donc Dire de Daniel Colaubert, mis en scène par Philippe Labeaune. Voilà, c'est également jusqu'à samedi. Et c'est rue Pasteur au Théâtre du Verso, à l'atelier du Verso. Voilà, merci beaucoup, merci à vous.
Merci Marion.
Merci.
Merci.
Et à vendredi prochain.
À vendredi prochain. Au revoir.